En direct de la manifestation contre le CPE à Montpellier, un reportage avec un slogan.
Oui, oui. Nous avons un slogan à vous transmettre qui est assez magnifique et poétique. Je cite deux points. Le CPE, cher talent dans le sang, et d'autres dans le cul. Et voilà! Contre le CPE! Contre le CPE! Venez, faites des bruits!
Oui, donc, bonjour Daniel. C'est Dimitri de Val-Sébin. Nous sommes une petite ville, mais les lycéens sont bien motivés, comme tu peux le constater. Attention, une petite démo. Est-ce que vous êtes motivés? Est-ce que vous voulez du CPE? Non. Oh, faites du bruit. Voilà, donc une petite démonstration. Vite, tiens-toi bien, la jeunesse est dans la rue.
Je voulais dire bravo aux jeunes qui se mobilisent contre le CPE. Je suis vraiment fière de vous, très 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 fière de vous. Je vous donne les dates des manifs pour le secteur. À La Roche-sur-Yon, c'est à 10h samedi, place Napoléon. Et à Nantes, c'est 15h, place du Commerce. Il faut qu'il y ait du monde, du monde, du monde pour pouvoir faire reculer ce gouvernement totalitaire. Je compte sur tout le monde. Il faut que tout le monde se mobilise, les jeunes, les chômeurs, n'importe qui. Moi, je suis institutrice, je risque rien, c'est pas mon problème, mais je veux pas de cette société-là. Il faut vraiment qu'on soit tous là. Donc, je compte sur vous. Venez nombreux, à samedi. Au revoir.
Oui, bonjour, c'est toujours les étudiants de l'Arsenal de Toulouse. C'est pour vous faire un petit point de la situation ici à Toulouse. Hier, on a occupé l'IEP et aujourd'hui, on est passé au stade supérieur, on occupe l'Arsenal. Donc, c'est des étudiants de l'Arsenal, donc de droit, d'éco, d'AES et de l'IEP qu'occupent l'université qui n'a pas voté la grève en mai 68, qui n'a jamais été bloquée. C'est un moment historique, on a fait une assemblée générale hier à 800 personnes. Et donc voilà, on est là, on passe nos nuits dans les facs, pour dire qu'il faut qu'on nous entende. On manifestera cet après-midi à 14h30 et on continuera jusqu'au bout, on continuera pour le retrait du CPE. Merci beaucoup à tous. Merci Daniel de passer nos messages pour encourager tous les gens qui sentiraient qu'on aurait du mal à se mobiliser pour leur montrer que voilà, tout est possible, même à l'Arsenal à Toulouse.
J'ai donc 4 enfants. La première de mes enfants a fait un BTS en électrotech en alternance. Au bout de ce BTS, on lui a laissé croire qu'elle serait embauchée, bien sûr, jusqu'au bout pour pouvoir bien presser le citron. Et au bout, on lui a fait comprendre que elle ne serait pas embauchée, puisqu'il reprendrait un apprenti. Donc maintenant, elle vend du pain pour 900 euros par mois, où il y a un bon revenu. Deuxième a fait un BTS de technico-commercial. Bon, elle est sans emploi, elle s'occupe de deux mémés pour 600 euros par mois. C'est un avenir très prometteur pour un jeune. Et le troisième a fait un bac pro, bûcheron. Et à la fin de son bac pro en alternance, son patron lui a dit que, un ouvrier français revenait trop cher, il valait mieux travailler avec des intérims bosniaques. Voilà. Donc, par rapport à ce qui se prépare à l'heure actuelle, et on peut dire qu'il y a vraiment longtemps que nos patrons français demandaient le droit de licenciement et d'embauche libre. Et c'est ce qu'ils ont à travers ça, parce qu'ils vont bien presser nos jeunes, ils vont leur faire miroiter un CDI, et à la suite, on les licenciera sans problème. Moi, je pense que tous les jeunes devraient être dans la rue, chômeurs, tout le monde, devrait y compris les chômeurs, bien sûr, et pour manifester, montrer leur dégoût de ce qui se passe à l'heure actuelle. Je vous remercie. Je suis donc Patrick de Annecy. Et voilà. À bientôt.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Alors, à propos des expulsions qui reprennent, là, la petite minute haineuse, est-ce qu'il y a les préfets qui signent les ordres d'expulsion? Est-ce qu'il y a un seul préfet qui s'est retrouvé dehors dans sa vie? Des hauts fonctionnaires. C'est scandaleux, scandaleux. Et vive le mouvement des jeunes, là. Vive 68, c'était Chantal de Paris. Ah, quel bordel. Salut à tous.
Voilà, je suis un provincial qui est à Paris. J'avais affaire à Avenue Montaigne. C'est bien, il y a des manifs apparemment dans Paris. Je sais pas, tout est calme. Je suis à côté du Plaza, il y a des Porsche, des Mercedes. Tout va bien, les gens sont bien habillés. Visiblement, le CPE, c'est pas leur problème. Je sais pas pourquoi les jeunes s'énervent comme ça. Non, franchement, je vous dis, tout va bien, tout va bien. Attendez. je laisse passer une Mercedes cette fois-là. Non, mais la vie est belle. J'ai comme l'impression qu'il y a un petit printemps qui arrive. On va pas tarder à aller à Megève ou à... Vous allez où, monsieur? À Stade. Ah, d'accord. Bon, mais non, mais tout va bien. Rassurez-vous, Avenue Montagne, tout va bien.
Je viens de tomber sur une émission, là, sur une radio, une autre radio, et un type, un certain Jean Perrin, qui est là, et en fait, il parle d'appliquer le système du CPE au logement. C'est-à-dire une période d'essai pendant laquelle le propriétaire pourrait dégager du jour au lendemain son locataire. Franchement, mais j'ai envie de pleurer. Mais dans quelle société on vit? Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Enfin, j'en reviens pas. C'est... Voilà. Rien d'autre à dire. Claire, Bex.
Cher auditeur de là-bas, si j'y suis, vous vous demandez toujours pourquoi Monsieur de Villepin et ses petits copains veulent toujours et encore nous imposer des contrats du type CPE. Tout d'abord, pour des ambitions personnelles, Monsieur de Villepin veut gagner ses galons d'ultralibéral en allant piocher dans l'électorat de Sarkozy pour les présidentielles. Ça peut aider. Ensuite, pour la droite et l'extrême droite, c'est un combat hautement symbolique. Mettre à bas le droit du travail est une étape indispensable pour démanteler les services publics tels que la santé, la poste et l'éducation nationale. Et puis enfin, si aujourd'hui les patrons ne veulent même plus exploiter la misère que l'on crée spécialement pour eux, où va-t-on? Alors je dis bravo aux jeunes qui se battent pour garder leur intérêt de demain. Officiellement, bien sûr, il s'agit de s'attaquer au chômage des jeunes, car comme le dit Yvon Jacob, membre du conseil exécutif du MEDEF, il faut encore aller plus loin. Alors, à quand le travail à la corvée, comme au XVIIIe siècle, ou au retour à l'esclavage? Allez, bisous à tous. Au revoir.
Je profite de votre antenne pour demander aux parents et aux grands-parents de se mobiliser samedi. Parce que maintenant, il y en a marre, mais vraiment marre. Il faut absolument que vous laissiez tous tomber la binette, le shopping, enfin tout ce que vous aviez prévu. Et il faut aller soutenir nos jeunes. Hein. Parce que ce gouvernement, là, ça ne peut plus aller. Il laisse la situation se pourrir. Il espère qu'il y aura des incidents pour clore le débat. Donc, eh bien, il faut en finir, une bonne fois pour toutes. Il ne nous laisse pas le choix. Il faut qu'on se bouge tous. Les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, enfin tous ceux qui se soucient de l'avenir de leurs jeunes, eux. Hein, tous ceux qui ont envie que nos jeunes ils aient un avenir meilleur et pas des mesures complètement débiles. Donc je vous demande et je vous supplie de venir tous, pensez à eux. Et en plus, vous verrez qu'ils sont drôles, ils sont créatifs. Vous verrez que vous aurez plus souvent les larmes aux yeux et la gorge serrée que ce que vous voulez bien admettre, parce qu'ils sont extraordinaires. Donc, arrêtons de les laisser se dépatouiller tout seuls. Il y a les syndicats qui y sont mis. Nous, les parents, je pense qu'on devrait être les premiers en ligne avec eux à les soutenir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je remercie Mermé de m'avoir laissé l'antenne, si je suis diffusée. Voilà, je vous embrasse tous et à samedi, on y sera nombreux dans le Vaucluse, j'espère. Allez, au revoir. C'est Nadine du Vaucluse. Merci.
Et... Oui, allô, allô.
Allô, on y va?
Ouais, vas-y, Francesco Giorgini, où es-tu et qui es-tu?
Alors, bah, déjà tu sais, je suis le sottodélégato zéro, pour une fois, pas de l'Amérique latine, comme mon collègue Antoine, mais d'ici de Paris, du boulevard Raspail, qui est, comme on dit, un cécala noir de monde, avec l'air très saturé de gaz lacrymo. Parce qu'il y a déjà eu un premier lance de gaz lacrymo à Sèvres-Babylone, et entre Sèvres-Babylone et le boulevard Montparnasse, le boulevard est évidemment au noir des mondes, les gens reculent parce que devant, il y a un cordon très nourri de CRS avec les camions à grille, et qui ont déjà justement lancé un salle de lacrymo. Moi, j'ai à côté de moi une jeune étudiante de Paris 13, à qui on m'a posé quelques questions. Bonjour, mademoiselle. Elle est en train, évidemment, de crier, elle, comme les autres. Alors, déjà, votre nom, votre âge et quelles études vous faites?
Andrex, 22 ans, je suis étudiante en licence santé sociale.
Et alors, pourquoi vous êtes là?
Bah, parce que je suis le CPE, moi, ça met les jeunes. En fait, c'est dans la galère, quoi, c'est des décisions. Je ne serai jamais un brave salarié, non.
Est-ce que ça vous fait peur, le fait qu'on commence à respirer du lacrymogène?
Oui, très, très peur, oui. Mais je resterai quand même.
Merci beaucoup. Et attendez, qu'est-ce qu'on vous dit autour de vous, votre famille, vos amis?
Ils disent vas-y, sois motivé, vas-y, insiste. Mais il n'y a que ça qui marche, de toute façon. On a tout essayé, ben, il n'y a que ça qui marche, donc on restera jusqu'au retrait.
Merci beaucoup, mademoiselle.
Pour le moment, les gens arrivent à Sèvres-Babylon, puis recoupent devant. Il y a donc une rangée de camions avec grilles et des cerises derrière qui vaporisent du gaz lacrymo, qui d'ailleurs on sent ici dans tout le boulevard. Mais bon, pour le moment, ça se passe relativement bien. À remarquer que malgré l'huile jetée sur le feu ces dernières 24-48 heures, par notamment certains représentants du gouvernement qui attendaient à de la casse, il y a eu jusqu'ici, à ce que j'ai pu voir moi, aucune vitrine brisée. Il y en aura peut-être quelques-unes. Alors, à ce moment, vous entendez derrière moi, il y a les organisateurs qui invitent à se disperser calmement. Il faut dire que c'est, comme on dit en français, un joyeux bordel, une manifestation étudiantine, notamment celle-là. À ce moment, il y a un peu de gens qui courent, des gens qui relèvent leur écharpe, et il y a eu un autre lanceur lacrymogène.
Merci Francesco Giorgini.
Ciao. Voilà, depuis le Sèvres-Babylone à Paris, c'était Francesco Giorgini, notre sous-délégué zéro à nous, là, qui est dans la manif. On sait pas très bien depuis, c'était il y a quelques minutes, on sait pas très bien comment ça évolue. Voilà, individu à risque que vous êtes, ami auditeur de la Bassie, j'y suis. Aujourd'hui, on continue notre balade, notre voyage au Bangladesh, dans ces charmants chantiers où l'on démolit et où l'on recycle les navires, les nôtres et ceux du monde entier. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la Bassie, j'y suis, au 01 56 40 37 37, histoire d'équilibrer un petit peu les choses.
Citoyens consommateurs français, ce message téléphonique est pour toi. Face à la montée dangereuse et rapide des regroupements gauchistes à l'initiative de M. Mermet, dans les repères appelés les amis de là-bas si j'y suis, je t'invite, camarades français, à rejoindre les repères des amis de Jean-Marc Sylvestre pour protéger la France de ses obstacles à sa grandeur et à son ajustement à l'économie mondiale. Je vous invite donc tous à rejoindre le siège du MEDEF de votre ville pour éviter tout fauteur de troubles ou agitateur de toutes sortes. Un message secret vous sera réclamé à l'entrée. Je vous le donne, ouvrez grand les oreilles. Le libéralisme est mon salut et Jean-Marc Sylvestre est le chemin. Je répète, le libéralisme est mon salut et Jean-Marc Sylvestre est le chemin. Sauvons la France de la vague bolchevico-anarchisto-gauchisto-communisto-socialististo. Bonne fin de journée. C'était Damien, le toujours et plus que jamais président du fan club de Jean-Marc Sylvestre.
Bonjour Daniel, bonjour là-bas. Alors, le titre de ton émission, Qui coud ma chemise, est assez marrant parce que je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Une imposture française de Nicolas Beau et Olivier Tosser. J'ai pensé que ce bouquin, Une imposture française, pourrait être sous-titré « Qui coud ma chemise ?». C'est un bouquin dans lequel, une fois de plus, on nous démontre qu'on se fout bien de notre gueule, à nous pousser à travailler beaucoup pour pas cher, à nous donner des leçons de droits de l'homme, etc., etc. Enfin, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Et si les auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur le site de l'édition Les Arènes, sur lequel je suis allée cet après-midi. Et l'adresse internet, c'est www.arenes.fr. Voilà, ciao.
Ça fait 15 ans que je vais au Bangladesh pour donner des commandes textiles. Et j'ai quasiment tout vu là-bas dans ce pays. Et en particulier des hommes comme Rajipur Rajapolam. J'en ai entendu beaucoup, des gens comme lui, et je pense que ce sont des opportunistes malfaisants. J'ai connu des familles au Bangladesh qui se sont enrichies pour au moins 10 générations, sans jamais voir aucune amélioration des conditions de travail. en particulier dans le textile, les prix sont tellement inflationnistes que les prix baissent et les volumes augmentent. Donc les profits sont exclusivement destinés aux chefs d'entreprise et aux sous-traitants, aux administrations corrompues, ce qui fait que les salaires n'ont quasiment jamais augmenté depuis que je fais ce métier. C'est-à-dire qu'un opérateur sur la chaîne gagne pareil, voire moins qu'il y a 15 ans. Donc, à ma connaissance, aucune grosse entreprise connue n'impose de label de qualité aux ateliers. J'ai vu des coupes vent la fuma ou des jogging Nike faits dans des usines où les instincteurs, c'est des seaux de sable. Et la trousse à pharmacie, c'est un savon de Marseille. Quoi.
Je ne sais pas si vous avez remarqué le début de l'émission de mercredi, avant la pétarade de la moto US, on entend les travailleurs chanter. Ils ont réussi au MEDEF, là-bas. Alors, travailleurs ici, apprenez à chanter. Vous allez chanter dans peu de temps. Ou alors, réagissez. Au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil, là-bas si j'y suis. Comment meurent les bateaux et qui coud ma chemise?
Flight number 2, arriving from...
Volez le vol, Dagadar. The whole day, the labor have to work in a noise, crowd, in this way.
Toute la journée, les travailleurs travaillent dans cette fourmilière avec tout ce bruit.
At the night too, ils travaillent aussi la nuit.
Yeah, round the clock.
24 heures sur 24.
Voilà, regarde la gerbe de feu qui sort du navire. Là, on voit très clairement, de l'intérieur du navire,
fireworks.
On voit vraiment un trait. Là, à l'extérieur du navire, on voit un giclement de... d'étincelles et de feu, c'est le gars qui est à l'intérieur de la coque, qui est en train de découper la coque. On voit très bien verticalement, il est en train de découper.
Fireworks.
C'est le feu d'artifice.
Le feu de Bengale, le vrai feu de Bengale, le voilà.
Voilà, feu de Bengale. Un feu de Bengale qui sort des flancs d'un énorme navire échoué sur cette plage. Plage, le mot correspond pas du tout à l'idée, à l'image qui vient à l'esprit quand on dit plage. L'espèce d'espace bourbeux, assez fangeux pour tout dire, où des navires, effectivement... cargo, pétrolier, toutes sortes de navires, navires de guerre éventuellement, sont échoués, on l'a vu dans les reportages précédents, sont échoués sur cette côte près de Chittagong au Bangladesh. Alors le feu de Bengale, c'est un soudeur ou un dessoudeur plutôt qui est en train de découper la coque du navire et la plaque d'acier va tomber, ensuite d'autres la ramasseront, la porteront sur leur dos jusqu'à un camion qui emmènera cette plaque jusqu'à des usines de laminage, de recyclage. Tout sera recyclé sur ces navires. Voilà où meurent nos navires, bien sûr. Il n'y a pas que le Clémenceau. C'est pas parce que le Clémenceau revient, d'ailleurs on ne sait pas où il est en ce moment, ce sacré Clémenceau, c'est pas parce que le Clémenceau revient que l'histoire est terminée, bien évidemment. C'est une histoire qui dure depuis des années. Et c'est une histoire qui illustre toute la question du recyclage de nos productions, de ces productions mondiales, de cet hyper-productivisme dans lequel nous sommes engagés. Bien souvent, on nous a pas trop demandé notre avis. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on fabrique et qu'on doit détruire, qui doit être détruit non seulement par les consommateurs pour entretenir le système, mais une fois que les consommateurs s'en défont, eh bien, qu'est-ce qu'on fait de tout ça et dans quelles conditions ? Ce que vient de dire cet auditeur qui connaît bien le Bangladesh dans les messages du répondeur concernant le textile, on le verra dans les reportages à venir, on va voir dans quelles conditions travaillent les ouvriers, surtout les ouvrières du textile, celles qui cousent nos chemises et pas seulement nos chemises, bien évidemment, dans quelles conditions elles travaillent. Et ce que dit cet auditeur, il a très bien observé la situation, il la connaît bien, c'est que depuis 10 ans, 15 ans, le sort de ces travailleurs, le sort du Bangladesh profond n'a pas changé. Lorsqu'on délocalise une entreprise dans nos pays riches, on se dit, après tout, ne soyons pas égoïstes. Ça amène du travail et un certain développement dans ces pays, comme on dit d'une manière assez obscène, en voie de développement. Eh bien non, ces pays sont en voie de sous-développement en dépit de ces délocalisations. C'est ça qu'il faut bien, bien comprendre. Ces délocalisations rapportent, et on l'a vu hier, on va le revoir à nouveau aujourd'hui, à quelques-uns, quelques propriétaires, quelques patrons, quelques spéculateurs très très forts, très malins et très puissants dans ces régions, qui généralement sont de mèche avec des gouvernements complètement corrompus, et tout ça se fait au détriment de l'ensemble de la population, d'une grande partie de la population, et les écarts se creusent, pas d'augmentation des revenus et des salaires depuis 15 ans, nous dit cet auditeur. C'est ce que nous avons vérifié sur place, c'est ce que les observateurs de bonne foi observent sur place. C'est contre cela que lutte un certain nombre de personnes sur place. Faut pas croire qu'on nous attend, que c'est uniquement quand là-bas, si j'y suis, arrive, que le salut arrive, bien sûr. Il y a des gens qui luttent au quotidien. Des travailleurs, on verra comme c'est difficile pour eux de lutter. On verra comment fonctionne le syndicalisme, par exemple. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas du tout, au moins dans le ship breaking, dans cette activité la destruction, la démolition, du recyclage des navires. Mais on va voir aussi comment des ONG comme IPSA, par exemple, se bat, essaye d'organiser les choses, de lutter inlassablement, avec beaucoup de ténacité, pour appliquer un minimum de droits du travail, les droits internationaux du travail, et des droits qui, évidemment, à n'en pas douter, existent dans la Constitution et dans la législation du Bangladesh. C'est évident, mais évidemment, tout ça n'est pas appliqué. En avant vers le passé, au Bangladesh, c'est là-bas si j'y suis, c'est sur France Inter, jusqu'à 18h.
They are cutting.
Il est en train de couper.
C'est vraiment impressionnant, là, l'horizon, là, c'est bout de bateau, quoi. C'est comme des parts de gâteau qui sont posées.
Parts de bateau, ouais.
Qui sont posées sur le sol.
More valuable metal also found here, like aluminium.
Et on trouve aussi de métaux de valeur aussi, ici, comme de l'aluminium,
copper,
du cuivre. Copper.
Yeah, yeah, everything. Something re-export. Some used in our local consumption.
Une partie est réexportée, puis l'autre, le reste est réutilisé ici dans l'économie locale.
Ah, ça, c'est un endroit étonnant, hein. C'est un forgeron. C'est un forgeron qui forge des outils. Et c'est pas des outils pour touristes, c'est pas des objets souvenirs.
C'est...
Ah oui, pour enlever les poussières dans la rue, ça, c'est comme une houe un peu. C'est tout un tas d'outils, c'est-à-dire il y a une truelle, il y a des louches,
il y a des couteaux, il y a des hachoirs, il y a des serpettes, il y a des tout petits outils comme ça pour gratouiller, pour machiner, pour truquer. Et tout ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est fait avec de l'acier qui vient des bateaux. Parce que depuis des kilomètres, on traverse toute une zone où il y a des quantités de commerce, des quantités de chantiers, où on vend des morceaux de bateaux puis qui sont transformés en morceaux plus petits, en chutes, en petits bouts, etc. Tout est récupéré. Et là, là il y a une forge, tu vois, au milieu, là, avec le tuyau, hop. L'atelier est complètement structuré en bambou, hein. C'est des bambous, c'est magnifique. Voilà. Il vient de sortir le morceau d'acier tout rouge et il le cogne.
Pour what?
Ah, pour gratter les noix de coco. C'est un tout petit outil pour gratter les noix de coco. Ah, ça y est, donc. Ça, il fallait vraiment le savoir. Hein. Voilà. Attention. Ah, il remanche un marteau. Avec un autre marteau. Mais c'est sûr que les marteaux viennent du bateau, le bois vient du bateau, tout vient du bateau. Du bateau ou des bateaux. Un génie du recyclage. Un génie de l'activité, un génie industrieux, le Bangladesh. Je rappelle ces chiffres, hein, 140 millions d'habitants pour un pays qui est entre le tiers et le quart de la France, c'est dire le peuplement de ce pays, et tout se récupère. Alors là, on est évidemment sur ces navires qui nous étonnent. C'est des paysages et des spectacles extraordinaires, ces énormes masses qui sont sur ces plages, échouées sur ces plages, avec ces milliers d'hommes qui travaillent au recyclage, la destruction et recyclage de ces monstres. Et on compte entre 25 000 et 30 000 ouvriers, mais on considère que c'est 250 000, 300, même jusqu'à 1 million de personnes qui sont impliquées dans le recyclage. C'est toute une affaire, ce recyclage. C'est une énorme affaire qui regarde toute notre civilisation. Hein, les recycleurs, les recyclés, les déchets. Et c'est pas seulement une petite histoire d'écolo, de pots de fleurs et de petites querelles sans. Ça regarde vraiment notre avenir. Et c'est pas seulement, on a vu, une affaire d'environnement. C'est évidemment, en même temps, et peut-être d'abord, c'est la grande affaire, une affaire sociale. Il y a beaucoup d'écolos à travers le monde qui dénoncent, bien sûr, ce type de recyclage et qui se mobilisent pour inventer et promouvoir des techniques alternatives, repenser la production en tenant compte du devenir des produits. Par exemple, on peut concevoir des navires de façon à pouvoir les détruire et les recycler plus facilement. C'est pas du tout impensable. On peut éviter le transfert sur de longues distances, qui est un gâchis et qui est un problème d'atteinte à l'environnement, notamment par rapport aux effets de serre. Enfin, il y a toute une série de mesures qui peuvent être prises. Elles ne peuvent être prises qu'à l'échelon mondial. Tout ça regarde l'OMC, regarde les Nations Unies, regarde une des accords qui ne peuvent exister qu'entre les États et non pas entre les entreprises, les multinationales, etc., qui n'ont qu'un but, évidemment, c'est le profit. La petite échoppe devant laquelle on se trouve, sur le bord de cette route très agitée, il y a une intensité toujours de vie, de son, partout au Bangladesh. Eux, c'est pas la spéculation qui les intéresse, simplement, avec des bouts, des morceaux, des miettes de ces navires, ils fabriquent des outils. Une truelle comme ça.
Ça coûte 60 taka.
Moins d'un euro.
Moins d'un euro. Pour moins d'un euro, on peut avoir une belle truelle.
Pour la faux là.
Alors ça, c'est comme un fer de bêche. Combien ça coûte le fer de bêche?
140 taka.
2 euros.
2 euros. Ça va. Et le hachoir à viande là? Le hachoir pour la viande, c'est combien ça?
180 taka.
Ah oui,
ah, oui, parce que c'est un acier beaucoup plus épais. C'est plus épais.
2,50 euros.
pour couper les légumes.
Fan. Fan, sinon fan, fan. Animal me gâche, gâche.
Quoi ça, cette espèce de petit appareil qui sort?
Tous les insectes avec cet outil, on met du gaz pour tuer les insectes.
Ah, c'est un pulvérisateur de pesticides.
Mais Flytox.
Mais ça ressemble à une pompe à vélo. Ça aussi, c'est de la récup.
Qu'est-ce que vous faites, vous?
Je
travaille sur le champ.
Paysan. Je travaille
sur une rizière qui est à côté. C'est une rizière de quelqu'un d'autre, mais j'y travaille.
Combien est payé dans ces cas-là?
Je travaille de 6h du matin jusqu'à 6h du soir et je gagne 80 takas par jour.
1,10€ par jour.
C'était fermé aujourd'hui pour la fête nationale, donc je n'ai pas travaillé aujourd'hui.
D'accord. Et demain, on reprend le boulot?
Demain, je reprends mon boulot de 6h du matin jusqu'à 6h du soir.
C'est une vie dure ou ça va comme ça?
C'est dur, mais je me contente.
Allez, on va les laisser travailler. On va les laisser travailler.
Il y a un truc étonnant à Chittagong, et on a vu ensuite ça à Dhaka, qui est la capitale du Bangladesh. C'est, les gens adorent le son, adorent la musique, adorent le bruit. Il y a une espèce de, visiblement, de plaisir dans le bruit. Et sur les cars, sur les bus, il y a des haut-parleurs. Vous savez, ces vieux haut-parleurs comme on avait autrefois. Et on passe de la musique, mais à l'extérieur du bus ou d'un véhicule quelconque. Alors on a des chansons, des chanteurs, et on a des bouffées comme ça de musique qui passent dans les rues, sur les routes, dans la circulation. C'est pas mal, c'est assez agréable. Il faut aimer le bruit, il faut aimer ça, mais c'est pas mal du tout. Ou bien alors, il y a à l'intérieur du car quelqu'un qui chante. Il y a un gars qui a un micro et qui chante pour charmer les voyageurs, mais aussi bien pour charmer ceux qui sont dans les embouteillages, qui sont dans la circulation, qui sont au bord des routes. C'est un mode d'expression comme ça qui est pas mal du tout. Alors là, on retourne avec notre ami journaliste Mamoun sur l'un des chantiers où on a réussi, grâce à lui d'ailleurs, à pénétrer, à être reçu par la direction du chantier, qui évidemment essaye de faire de la com. Alors c'est un peu primitif comme procédé. On essaye de plaire aux journalistes, on les reçoit bien. Alors on a dégagé un endroit avec des beaux carrelages, on a sorti des fauteuils qui ont dû être récupérés dans des navires, alors qui ressemblent, vous savez, des vieux fauteuils Henri II comme ça, et avec des velours un petit peu usés. Et là, on assoit les nobles visiteurs, et puis devant il y a des boissons, il y a du thé, il y a des fruits, et on surplombe les travailleurs, on surplombe tous les gars qui sont en train de travailler, de risquer de haner, de suer, de risquer leur peau dans ces navires. Ça fait partie des conditions dont beaucoup de journalistes s'accommodent. Nous, on a beaucoup plus de mal. On écoute les explications que nous donne notre ami Mamoun sur le processus de destruction, de recyclage des navires.
After completion the formalities, after paying the taxes, then the ship come here.
Une fois qu'on a fait toutes les formalités, une fois qu'on a payé les taxes, qu'il y a eu tous les feux verts des autorités, les bateaux sont ramenés jusqu'ici.
Then they start in high speed to the near way.
Et après, ils se mettent les moteurs à fond et ils foncent vers la plage.
If it is grounded, they tie with their wire and they pull it nearby.
Ils les attachent avec des amarres et ils sont treuillés jusqu'à la plage.
Et après, comment ces opérations? Alors, c'est dans quel ordre les opérations?
Then they make inventory. What is the valuable thing? Furniture, cables, hardware.
Alors d'abord, ils font l'inventaire de tout ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Les câbles, l'électricité, tous les appareillages.
They keep the valuable things earlier. Then it started to broke.
Alors ils enlèvent tout ce qu'il y a de valeur à l'intérieur et commencent après à détruire le bateau.
a vessel with at least 10,000 metric tons, it needs 6 months to broke completely.
Alors, un bateau qui fait comme ça 10 000 tonnes, il faut 6 mois pour le démonter complètement.
C'est 6 mois de travail. À combien d'hommes?
300 personnes.
300 personnes par jour sur ce chantier-là.
Pour un bateau de 10 000 tonnes. Quels sont les salaires des ouvriers?
Minimum 150 taka.
150 taka minimum, ce qui fait 2 euros à peu près.
Per day.
Because it was paid by the contractor, not the owner.
Parce que c'est pas le propriétaire qui les paye, c'est les
contractors, c'est-à-dire les recruteurs de personnel, les manpower du coin, quoi. Les négriers, c'est-à-dire que le patron fait sous-traiter par les exploiteurs. Voilà, à nouveau, on voit des gars qui portent cette immense plaque d'acier très épais et qui marchent au pas. Tout ça est rythmé là-bas. Il y a une autre plaque qui est portée de cette façon-là. Et alors, le plus extraordinaire, c'est cette file d'ouvriers, une trentaine peut-être, qui portent un câble. Ils sont dans la boue, dans la vase, et ils tirent un câble. Je vois pas où va le câble. Parce que là, c'est la marée basse. Hein.
Et là, on voit des gars dont un qui a l'air assez jeune, là, qui sont en train de plus ou moins trier un tas de ferraille sous les yeux. Là, ils jettent des gros morceaux indistincts qui ont été débités. Et le patron veut absolument que nous installions pour pouvoir boire un coup en contemplant ce paysage.
Là-bas, comme ici, on est évidemment friand de feuilletons, feuilletons bangladais. Je suis pas sûr que vous ayez beaucoup entendu de ces feuilletons, ni vu de ces feuilletons, mais vous inquiétez pas, c'est exactement les mêmes que ceux que nous voyons chez nous dans nos télés à longueur de journée. Et c'est ceux que peuvent voir les ouvriers des chantiers. Oui, pour ceux qui ont réussi sur leur baraque, cabane baraque, là où ils dorment, là où ils sont hébergés, à se faire quand même une antenne de télé, c'est-à-dire qu'il y a un long bambou comme ça, puis en haut du bambou il y a 3 petits morceaux de ferraille et on arrive quand même à récupérer, à choper la télé et dans les moments de repos, eh ben à regarder quand même un peu de quelques images. On a réussi à pénétrer dans l'un de ces foyers. Là où sont logés les ouvriers, c'est toute une histoire, on se méfie de nous, bien évidemment, mais ils ont envie de parler, ils ont envie de se confier, et nous expliquer dans quelles conditions absolument inhumaines ils survivaient, parfois depuis très très longtemps. Alors on a parlé de l'amiante hier, vous vous souvenez, alors ça c'est vraiment pas un problème du tout, ni pour les patrons, ni d'ailleurs pour la plupart de ces ouvriers précaires qui ignorent les dangers qu'ils courent. Ils ont évoqué les accidents, nombreux, un peu moins nombreux actuellement, soyons justes. Il y a quand même la pression des ONG internationales, des médias. Ont quelques effets et voilà, nous passons quelques instants donc avec ces ouvriers à la pause de la mi-journée.
Vous avez toujours du boulot? Les bateaux arrivent toujours, il y a du travail?
Non, chaque semaine c'est l'ONA.
Non, pas toujours.
Alors dans ces cas-là, quand il n'y a pas de travail, vous avez le droit de rester dans vos cabanes, dans vos maisons, là, ou bien il faut partir?
Non, nous n'avons pas le droit de rester dans ces chambres si nous n'avons pas de travail. Dans ce cas-là, nous devons rentrer au village.
Et vous ne revenez que quand il y a de nouveaux bateaux qui arrivent?
Oui, s'il y a un nouveau bateau, comme il y a le portable partout, c'est facile à nous communiquer et comme ça, nous venons de joindre le travail.
Vous arrivez tout de suite dans ces cas-là.
Oui, on arrive, mais ça prend 12 heures pour arriver et ça coûte 5 sotaka pour arriver. Mais on arrive quand même.
Tu as des enfants ?
Deux fils. Hein.
Deux fils. Tu voudrais qu'ils fassent quoi quand ils seront grands ?
Ils travaillent déjà sur le chantier.
Ils ont quel âge ?
Ils ont 13 et 15 ans.
Tu as deux fils qui sont au travail actuellement.
Oui. Un qui travaille depuis 2 ans et l'autre il vient de commencer il y a un mois.
Vers 11-12 ans, les enfants commencent à travailler ici. Et pour la retraite, quand on est vieux, qu'est-ce qu'on fait ?
Je n'ai rien dit à ce propos, c'est le Dieu qui le sait.
C'est Dieu qui le sait. Heureusement qu'il y a Dieu. Hein. Mais heureusement qu'il y a Dieu, ça console. Si vous croyez que c'est une castagne entre... des ouvriers et le patronat, vous mettez le doigt dans l'œil. On n'est pas à Sèvres-Babylone, on n'est pas à Paris, on est au Bangladesh, on est à Chittagong, et c'est un feuilleton. Ces ouvriers sont très 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 asservis, et la révolte très très prudente, très 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 cachée. On a très très peur. Il y a quand même un climat assez malsain dans tout ça. Enfin, on n'a pas très très loin d'avoir la liberté d'expression, sauf si on est le propriétaire de ce chantier-là ou d'un autre. Mais le propriétaire de ce chantier, eh bien, on a eu la chance de le rencontrer. Vous avez fait connaissance avec lui hier. Il nous a expliqué, voilà, qu'il fait tout ça, c'est pour le bien de ces gens-là qui, sans lui, mourraient de faim. On a retrouvé exactement la phrase de Paul Nizan sur écrite très longtemps sur Michelin, qui disait Nizan doit faire croire que qu'il doit fabriquer des pneumatiques, car sans lui et sans cela, les ouvriers mourraient de faim. Et ben, ça nous a été dit voilà hier par Mujibou Rahman Milon, le patron, le richissime et puissant, très très puissant patron de ce chantier. Mais il n'est pas propriétaire que de ça. Mais enfin, c'est une de ses activités. Quand tes ouvriers sont blessés, ou comme là récemment, il y a eu des tués, des accidents mortels, qu'est-ce que vous prenez en charge, vous, là-dedans ?
Okay, we give them, you know, if there is some accident, you know, the accident can be happen anywhere on the road accident.
Ouais, mais vous savez, les accidents, ça peut arriver n'importe où, non, même sur la route.
This is the 50,000 people, 60,000 people working.
Voilà, but even, 50, 60 000 personnes qui travaillent.
Even 5 people not dying in a year.
Mais pourtant, il y a même pas 5 morts par an.
If any accident, even.
Mais si malgré ça, il y a quand même un accident qui arrive.
We have to accept the accident. Okay, we have to accept the accident.
Il faut quand même accepter cette réalité-là.
C'est naturel. Hein?
C'est naturel.
We give the full medical facility.
Prise en charge complète des soins.
And if anybody die, we have a very good amount. We give back to their family.
Et si quelqu'un meurt, on donne une grande somme d'argent à la famille.
Combien vous donnez, par exemple?
It is not fixed, but with a humanitarian ground, if we see his family, 5 children, 6 children. So we take care of the children until 16, 17 years old.
Il n'y a pas de montant fixé à l'avance, en fait. On prend, c'est au cas par cas. Si c'est une famille de 5 ou 6 enfants, par exemple, on va faire en sorte que de les prendre en charge jusqu'à 15, 16 ans.
Mais alors, justement, puisque vous parlez d'enfants, sur le travail des enfants, est-ce que vous laissez les enfants travailler sur votre chantier?
This is a really hard job. We don't prefer children to come and do the job.
On préfère pas que les enfants viennent sur notre chantier parce que c'est un des métiers assez difficiles.
And they come, they do some cleaning. Maybe we don't give them
the heavy job. Peut-être qu'ils vont venir, mais pour faire un peu de nettoyage, quoi, mais pas faire le gros du travail difficile.
Ah, d'accord. Mais vous les payez?
Yeah, we are paying him because his family, his maybe father died.
Oui, bien sûr qu'on les paye parce que par exemple, souvent c'est des enfants des orphelins ou le père est mort.
The father died, maybe father died and no mother is, you know, begging or maybe washing dish somewhere. So he doesn't have money to go to the school. So
I cannot, le père you know. Est mort, la mère est en train de mendier dans la rue, les frères et sœurs n'ont pas les moyens d'aller à l'école, donc là, effectivement, on va l'aider.
Il y a plein de travailleurs autour de nous, mais il y a des enfants. Est-ce que tu travailles, toi? Comment tu t'appelles?
Hassan. Je m'appelle Hassan.
Hassan, quel âge tu as, Hassan?
J'ai 13-14 ans.
Et tu travailles depuis quand?
Je travaille depuis 12 ans.
Donc tu as commencé à travailler à 11 ans. Qu'est-ce qui t'a amené ici?
Je suis venu avec mon frère.
Avec ton grand frère? Et tu fais quoi comme travail sur les bateaux?
Je suis au stade de l'Oakade.
J'assiste à nettoyer les morceaux de fer une fois qu'ils sont débités.
Tu travailles combien d'heures par jour?
Ça dépend, 9h, 10h ou 11h par jour.
Pour combien tu gagnes par mois?
C'est de 95
à 100 takas par jour.
1,30€ par jour. Mais les autres te laissent travailler comme ça? On dit, bon, bah, c'est un enfant, on le laisse travailler. Est-ce qu'il y en a d'autres? Quel âge tu as, toi? Viens voir. Comment tu t'appelles?
Mohamed Zouil.
Je m'appelle Mohamed Zouil.
On a le droit de chef.
Je suis 15 ans.
T'as 15 ans, depuis quand tu travailles?
Ça fait un an que je travaille.
Alors je disais, il y a de nombreuses ONG, associations au Bangladesh comme en Inde, peut-être moins au Bangladesh quand même, qui, évidemment, essaye de lutter contre cet état de fait, qui essaye d'attirer l'attention du monde sur ces injustices criantes et absolument révoltantes. Ils ont des difficultés, mais ils s'organisent, ils publient des dossiers, ils savent faire pression, et sur les médias, et sur le gouvernement, et sur les patrons, et ils obtiennent quelques résultats, même si c'est très très difficile pour ces lutteurs sociaux, il faut bien les appeler par leur nom, c'est très difficile localement, ils font l'objet de pressions de toutes sortes, de dénonciations, c'est des gens extrêmement courageux, et eh bien les voilà, on se trouve avec eux, et donc vous avec nous, avec eux.
Tu sens tellement ce que tu sens. Bientôt les moustiques vont arriver pour se nourrir d'un peu de sang.
Ah, les mosquitos vont arriver. C'est l'heure avant, juste avant les moustiques. C'est l'appel à la prière. Il ne faut pas faire de rapport, surtout. Hein. Il n'y a pas de rapport entre l'appel à la prière d'un côté et l'arrivée des moustiques.
On est dans un décor quand même assez extraordinaire parce qu'il se passe une chose au Bangladesh, c'est qu'il est très difficile de s'isoler. Il y a tellement de monde, c'est tellement peuplé que pour trouver un petit endroit tranquille, c'est vraiment un véritable exploit. Et là, on cherche un endroit, non seulement, on a deux prétentions, trouver un endroit tranquille, avec pas trop de monde, et un endroit où il n'y a pas trop de bruit. Et bien, on a fini par trouver, c'est le long d'une voie de chemin de fer. Il y a deux voies de chemin de fer là qui se croisent. Et c'est un lieu de balade. Là, les gens viennent goûter le soir, ça se balade, ça discute. On marche sur les rails, on marche sur le balastre. Il y a des gamins qui reviennent avec les battes de cricket parce que c'est le sport national. Et voilà, c'est très tranquille. Dans trois minutes, il y aura foule autour de nous. D'ailleurs, les gens commencent à arriver. Et les gamins arrivent, un gars avec son gosse dans les bras. Là-haut, au-dessus du pont, c'est une heure délicieuse, mais on n'est pas seul. Être au Bangladesh, c'est ne pas être seul.
Jamais.
Jamais seul au Bangladesh. Voilà, ça y est, il y a une petite foule.
autour de nous ?
Aucune trentaine de personnes pour l'instant.
Oui, pour l'instant, mais peu à peu, ça va s'épaissir. Voilà, alors si vous entendez un bruit épouvantable, si vous voyez un train qui arrive derrière nous, faites-nous signe. IFCA, c'est Young Power in Social Action, cette ONG, qui sont effectivement des gens très très courageux, qui luttent contre la corruption, pour la transparence, qui essayent surtout d'attirer l'attention sur les conditions de travail. Pas seulement sur les chantiers, mais un peu partout à travers leur pays. Dialogue le long de la voie ferrée.
On nous a parlé du travail des enfants. On nous a parlé des accidents. On a par exemple un jeune garçon de 15 ans qui travaille de 8h du soir à 7h du matin pour 74 taka.
1 euro, oui, 4 centimes.
এখানে মানে বিষয়টা হচ্ছে শিফটিং ইয়েতে কাজ হয় মানে দুই ধরনের কেউ সকাল থেকে কাজ করছে সন্ধ্যা পর্যন্ত আবার কেউ রাত থেকে মানে সারা রাত কাজ করবে এটা তারা যেটা বলেছে এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য কথা এবং সেখানে কোনো মানে বড়রা কাজ করবে ছোটরা কাজ করবে এমনটা না
Il n'y a aucune discrimination à propos du travail entre les enfants et les adultes. Donc les adultes et les enfants doivent travailler dans la même manière, dans la même condition et avec les mêmes horaires.
Anumanik tara 10 theke 11 ghonta mane gore pore er ki tara 10 theke 11 ghonta kaj korche ha par day.
C'est 10 ou 11 heures par jour.
Alors là on risque d'être interrompu dans notre conversation. On est accroupi entre des voies de chemin de fer. Et la nuit est tombée, les moustiques sont arrivés, ils sont au rendez-vous, ils sont en train de me bouffer les pieds, les bras, les mains. J'en ai un qui est en train de me bouffer l'oreille droite. Et le train arrive. Donc on va suspendre cette interview. C'est quand même le studio le plus incroyable qu'on ait trouvé de toute l'histoire de la radio. Donc vous allez entendre siffler le train.
Merci à tous, c'était un reportage avec Yvan Thiel, merci à Sirajuddin Belal, John Tou, merci à Shakir et Jaï de l'ONG IPSA, Young Power in Social Action, merci à Mamoun Abdullah du journal Protom Allo, merci à Hassan et Choudreau, merci à Mujibou Rahman Milon, PDG du groupe Sylvia, merci à Selim Oula Salim, merci à Rupam Singh et à Sten Le Berigo, nos amis de Chittagong. Merci aussi à notre traductrice bien-aimée, Sarine Chouduri, à lire le dernier rapport de la FIDH avec Greenpeace et l'ONG IPSA, les bateaux en fin de vie, le coût humain de la démolition des navires, disponible sur le site www.fidh.org. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France, à la rubrique émission « Là-bas si j'y suis ». Et la manif continue. Où en est-on ? À Paris, on va quitter Chittagong pour Paris, pour Sèvres-Babylone, où on va retrouver notre Francesco Giorgini. Où en est-on, Francesco ?
Alors, Sèvres-Babylone est encerclé de tous les côtés. Maintenant, Perseres avec des camions à gris. Et ils font des charges, petites charges d'une trentaine ou cinquantaine de mètres avec lance de lacrymogène sous les à peu près 3000 à 5000 étudiants qui sont encore à Sèvres-Babylone et qui sont à ce moment discrètement gazés. Et c'est un peu dangereux parce que c'est un entonnoir, il y a des CRS de tous les côtés, donc on peut sortir en parent, mais on peut pas sortir en manif. Donc c'est un peu un jeu de chat de la souris avec les CRS qui chargent et puis ils reculent, ils rechargent, ils reculent et ils lancent des lacrymogènes. Donc pour le moment, les étudiants répondent surtout avec des slogans, avec quelques lances de canettes, quelques lances de bouteilles, mais en général, en restant plutôt calme. Par exemple, l'hôtel Lutetia, qui en d'autres occasions a été, comment dire, plutôt éprouvé par le passage des manifs, aujourd'hui a été laissé presque intact. Il y a juste quelques fleurs sur les côtés qui ont pris les pieds des étudiants qui voulaient bien regarder la place. Mais je trouve que les étudiants se portent avec un grand calme et un certain maîtrise d'eux-mêmes, même si la situation n'est vraiment pas agréable, parce que désormais on est cerné par tous les côtés par les CRS. Donc il nous reste qu'à sortir un par un, ou alors à continuer à se faire charger encore, probablement encore quelques bonnes minutes.
Merci Francesco Giorgini, en direct de CF Babylone à Paris. Technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale. Bonté par Guy Vanctil et Corinne Guyenne, assisté de Pascal Pascariello et Christophe Imbert. Le numéro du répondeur de la base, et j'y suis, vous le saviez, c'est le 01 56 40 37 37. Un petit peu de réclame quand même pour finir.